apporter un regard extérieur. Je ne partage pas ton analyse du ramollissement des juges après le départ de Catherine, parce qu'il y avait des juges qui étaient encore très très impliqués. Je pense qu'on aurait eu, et ils sont toujours, ils sollicitent toujours Véronique, ils sollicitent toujours certains nombres d'intermédiateurs. Ce qui s'est passé, c'est l'institution universitaire et pas l'institution de justice. À mon avis, l'institution de justice était beaucoup plus favorable qu'on a pu l'analyser a posteriori. Notre problème, c'est qu'on n'a pas pu former de nouvelles générations d'intermédiateurs. Donc, ne pouvant pas former d'autres générations, on ne pouvait plus non plus répondre à la demande d'intermédiation qui était formulée par les juges, ni même élargir à d'autres juridictions et d'autres juges pour enfants. C'est la question, voilà, ça renvoie à la question de l'intégration dans les processus universitaires. Alors, justement, la question du DU, la question de Besançon. Besançon, c'était exactement le sous-titre du livre d'Alain Bruel, c'était les aperçus de clinique judiciaire. C'est-à-dire, comment justice et santé interagissent à l'intérieur d'une université de santé publique. C'était ça le propos. L'effet très favorable, quand même, c'est que Monique Bouteloup, justement, a participé à ce module et qu'on a organisé l'intervention interculturelle auprès des puéricultrices juste après, en 2009. On a eu des échos qui étaient favorables par l'ensemble des participants, sauf une qui était l'interne de médecine générale dans santé publique, qui était toute jeune, fraîche et moulue de la faculté de médecine, qui là n'a rien compris au film, et en particulier qui était choquée par le film de Pierre Legendre, La fabrique de l'homme occidental. Je ne sais toujours pas pourquoi ils n'ont pas reproposé en 2009 de le faire, et ils nous ont proposé de le faire en 2010. Donc on a refait la proposition dans l'université d'été, mais le dispositif de l'université d'été, qui est toujours le même, c'est de faire un nombre de modules surnuméraires. Ils proposent 14 modules alors qu'ils savent qu'ils ne pourront faire que 11, et ils suppriment tous ceux qui n'ont pas assez d'inscrits, ce qui fut le cas de notre module en 2010. On n'a pas eu assez d'inscrits. Moi, ils m'ont sollicité cette année pour proposer un module santé des migrants. Donc, avoir cette perspective interculturelle, mais avec un habillage plus classico-médiatique, santé des migrants. Et pour l'instant, je dois dire qu'on n'a quand même pas énormément d'inscrits. Donc, il va peut-être se trouver que même sous cette acception plus habituel, on n'aura pas beaucoup d'inscrits. Alors que pourtant, quand on organise ça, on a fait un diplôme interuniversitaire santé des migrants, vous avez reçu l'invitation, et on s'est retrouvé avec 37 inscrits pour la première session. C'est quand même quelque chose d'incroyable, hein, 37 inscrits en ce moment. On a organisé une journée en octobre à Sainte-Anne sur interculturalité et soins. On a été obligé de refuser du monde. Donc c'est une problématique qui attire quand même des gens. C'est une problématique qui attire des gens. Maintenant, bon, moi j'attribue quand même beaucoup, c'est Sarkozy bien évidemment, le ministère de l'Identité nationale et de l'Immigration a fait beaucoup, mais aussi à des phénomènes plus profonds. Des phénomènes plus profonds administratifs, c'est la loi d'orientation de la finance, la LOLF, hein, des débuts des années 2000, suivi par la RGPP, hein, la Révision Générale des Politiques Publiques, qui attribue à toute politique publique, quelle qu'elle soit, un indicateur chiffré. Comment pouvez-vous chiffrer le fait que l'intermédiation culturelle d'un tribunal pour enfants s'est bien passée? Comment est-ce que vous pouvez avoir un indicateur qui vous dise que, voilà, grâce à ces interventions, il y a eu telle ou telle chose? Ça ne peut être qu'à 10, 15, 20 ans d'écart, et certainement pas... C'est vrai que, quand on a présenté l'intermédiation culturelle telle que tu l'as décrite à Regard, on l'a fait un samedi ici, on était dans une salle en haut, il y a 4-5 ans, on a fait témoigner une jeune fille qui avait bénéficié d'une intermédiation culturelle, je ne sais pas si tu t'en souviens. Et c'était tout à fait intéressant, et très, mais c'est du qualitatif, c'est pas du quantitatif. Donc, et ça, ça imprègne, je sais que Dominique est confronté à la même chose. Moi, en santé publique, éducation pour la santé, à Vitry, je suis confronté aussi à la même chose. Combien de gens se sont fait dépister après votre intervention? Je ne peux pas. Hein, on fait une intervention sur la santé après 50 ans. Je ne peux pas dire qu'au bout de 6 mois, il va y avoir plus de dépistage du cancer du sein qu'avant l'intervention. Ce n'est pas possible. Ça se mesure sur des grandes échelles et de temps et d'espace. Voilà, donc je crois que ça, c'est un des phénomènes de fond qui fait que l'institution, au sens le plus large du terme, qu'elle soit judiciaire, médicale, éducative, sociale, ne peut plus prendre en compte cette dentelle qu'est l'intermédiation culturelle.
Alors, et là-dessus, moi, je rajouterais que l'éducation nationale, bien naturellement, conforter ce que tu viens de dire avec, au niveau de l'évolution à la fois de l'organisation des enseignements universitaires et du financement de la recherche par projet au niveau universitaire, de détruire toute possibilité de prise en compte de la différence culturelle et de l'intermédiation culturelle dans les schémas d'enseignement. Dans cette maison, je suis encore toléré, mais mes idées ne représentent plus rien. Nous sommes entrés dans l'ère des écoles de droit américaines. Et la formation juridique ici qui est donnée est une formation qui est professionnellement orientée sur le droit des affaires, le barreau, etc., qui donc ne prend plus en considération ce genre de choses. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on se demande même combien de temps on sera susceptible de pouvoir mobiliser ces locaux, parce que...
Allez, profitons qu'on y est.
Voilà,
profitons qu'on y est.
Je peux rajouter une chose sur l'expérience d'intermédiation culturelle, c'est aussi la fragilité qui existe entre les juges qui bougent beaucoup. Donc, à chaque fois, il faut trouver quand même des nouvelles ressources qui sont tout à fait prêts à faire l'intermédiation culturelle. Et aussi du côté des étudiants que l'on forme, qui sont en doctorat, qui aussi vont partir vers d'autres voies. Donc il y a un double mouvement là qui part.
Une instabilité, oui.
Une instabilité, une fragilité
Alors, moi, mon propos n'est pas de former des intermédiateurs culturels comme les Étienne. Mon propos, c'est d'essayer d'instiller dans les esprits des acteurs de première ligne, quelle que soit leur discipline, cette notion d'interculturalité et de les inciter justement à l'aborder. Parce que, en fait, ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'il y a une énorme cécité qui est appliquée sur ces questions-là, pour tout un tas de raisons. D'abord parce que le bain médiatique ambiant est quand même pas très favorable à prendre en compte favorablement, positivement, ces questions de différence culturelle, bien au contraire. Parce que il y a un manque de connaissances aussi un peu global, et qu'on se sent un peu angoissé devant la masse de connaissances que veut dire connaître 1,5 milliard d'Asiatiques, 800 langues africaines. Qui suis-je pour prétendre les comprendre, c'est-à-dire les prendre avec, d'autant plus qu'il y a quand même beaucoup de polémiques qui se font jour, avec Hugues Lagrange qui considère qu'il y a des cultures qui sont inassimilables et inadaptées au terreau français, sans parler des Zemmour et autres Finkielkraut. Donc ça imprègne aussi les réflexions des travailleurs de première ligne. Donc c'est des risques à prendre. Des risques à prendre à aborder ça. Le risque, c'est de se faire traiter de raciste, hein, parce que, syndrome méditerranéen, etc. Et le risque, c'est aussi de se faire traiter de communautariste. C'est à l'opposé, c'est-à-dire de favoriser le repli sur soi, et que d'en parler, finalement, est très, très dangereux. Donc, on va pas aborder les choses. On va l'aborder encore moins, aussi, que dans nos imaginaires, et singulièrement les imaginaires occidentaux, sont encore très, très prégnants les éléments coloniaux, issus de la colonisation, extrêmement présents. Et on le sent confusément. On le sent confusément, et phénomène habituel, quand il y a un refoulé comme ça, il y a une petite culpabilité sous-jacente qui fait que, quand on a ces questions de culture, de religion, on se dit, est-ce que je suis bien, est-ce que... Tant qu'on n'a pas exhumer ce refoulé, tant qu'on ne l'a pas verbalisé, tant qu'on ne l'a pas travaillé, va subsister cette culpabilité qui va paralyser l'intervenant de première ligne. Alors, moi, si vous voulez, par rapport à ça, j'essaye d'avoir une démarche, d'abord une démarche théâtrale. Je pense que la formation, c'est du théâtre. Si on veut capter, comme tu disais, celui qui dort dans le fond à gauche ou celui qui est en train de regarder sur Internet ses derniers mails, il faut faire du théâtre. Qui veut dire faire du théâtre ? C'est une mise en scène de la formation. Mise en scène de l'animateur, mais mise en scène aussi des outils pédagogiques. Et là, on a quand même des outils qui permettent justement de capter l'attention, une attention qui est de plus en plus labile, avec une population qui tweete sans arrêt. Et qui... Donc, ça, c'est d'abord la première chose. Ensuite, c'est rassurer. Rassurer les intervenants, enfin les participants plus exactement, d'abord sur le fait qu'ils sont parfaitement légitimes de parler de ces questions de culture. Ils sont parfaitement légitimes dans la mesure où l'interculturalité, comme tu l'as souligné, c'est d'abord l'interculturalité de génération, de genre, d'histoire, d'origine, etc. Avant d'être une interculturalité exotique. C'est-à-dire que l'adolescent issu de l'immigration est d'abord adolescent avant d'être issu de l'immigration. Et ça, ça rassure beaucoup les intervenants qui se disent bah, « peut-être que je vais arriver à traiter ça ». Deuxième phénomène de réassurance, c'est leur dire qu'il est absolument hors de question qu'ils connaissent toutes les cultures. On ne leur demande pas de savoir ce qu'est un enfant sorcier dans le quartier de Kinshasa, ou ce qu'est la quarantaine chinoise pour... non. Mais ce qu'on leur demande, c'est d'avoir une posture d'ouverture. D'ouverture à l'autre et d'ouverture à la différence. Et dans ce cadre-là, moi je commence généralement par changer les définitions. C'est-à-dire de plus parler de migrants, mais parler de situation d'altérité. C'est-à-dire, situation d'altérité, ça mobilise autant le côté institutionnel que le côté de l'usager. Les deux sont dans des situations d'altérité, avec évidemment des dimensions qui peuvent être culturelles, exotiques, mais qui peuvent être aussi simplement le sans domicile fixe qui ne sait pas de quoi son déjeuner sera fait quand il est face à la personne de la caisse d'assurance maladie qui sait que jusqu'à ses obsèques seront prises en charge par l'institution, ils sont dans une situation d'interculturalité. Et donc, cette situation d'altérité permet de mobiliser autant l'institution que l'individu, que l'usager. Pardon. Et d'aborder aussi les relations institutionnelles dans toute leur diversité. Hein, le chef d'entreprise américain, donc exotique, qui est face à l'URSSAF, il est dans une situation d'altérité. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux dire, hein, l'URSSAF. Il est dans une situation d'altérité qui est aussi exotique que celle du migrant face à la préfecture qui demande ses papiers de réfugié. Donc, et en élargissant cette notion, on sort de l'essentialisation de la migration comme étant un phénomène unique. Non, nous sommes toujours, quand on est dans une institution, dans cette situation d'altérité qu'il faut arriver à gérer. Ce qui veut dire que, quand je parle aux participants, j'ai une démarche progressive pédagogiquement. Et je commence toujours par la question de l'éthique. Qu'est-ce que c'est que l'éthique? Et en particulier, comme les enseignements que je fais sont généralement articulés avec l'éducation pour la santé, c'est assez simple de replacer l'éthique dans une perspective historique avec les dogmes, les sept péchés capitaux religieux, et puis ensuite les dix commandements de la santé de la jeunesse hitlérienne, le dogme moral, se substituer, et Nuremberg, et ensuite donc l'éthique, la mise en débat permanente des situations. Donc, ça arrive justement théâtralement, encore une fois, à sensibiliser à l'actualité de l'éthique. Parce que plus ils sont jeunes, aujourd'hui, plus ils disent « bon, l'éthique, hein, c'est comme l'Europe de De Gaulle qui disait « ça saute sur son siège comme un cabri ». Et quand on leur parle d'éthique, bon, ils disent « c'est un peu ringard comme dispositif ». Quand on parle des camps de concentration, là, tout à coup, ils se disent que peut-être que l'éthique permet de se prémunir d'un certain nombre d'excès, d'un certain nombre de problèmes. Ensuite, l'objectif de la formation va être double. Il va être de donner des outils conceptuels qui leur permettent d'agir au quotidien, dans leur pratique. Encore une fois, qu'elles soient éducatives, qu'elles soient sociales, qu'elles soient médicales ou judiciaires, hein, ces outils conceptuels qui leur permettent de dépasser la simple mission institutionnelle qui leur est confiée. Et parler d'étranges. Et puis, en même temps, de travailler sur leur personnalité, modifier leur posture. Et pour ça, donc, c'est travailler ce que Furtos, qui est un psychiatre de Lyon, a défini comme a réactualisé plus exactement la professionnalité. C'est-à-dire la façon dont chacun habite sa profession. parce qu'on va avoir des métiers que chacun va exercer de façon différente, combinant le professionnalisme, ce qu'on apprend, et notre personnalité, ce qu'on, l'héritage dont parlait, les compétences dont parlait Étienne tout à l'heure. Ensuite, alors, j'ai un petit truc, c'est que je choque, alors j'espère que ça va marcher. Non, ça n'a pas l'air de marcher. Je mets en scène, encore une fois, non, mais ça ne marche pas, tant pis, un certain nombre d'iconographies coloniales. Ah si, ça marche, d'accord. Alors par contre, c'est sur le mur. Par exemple, je leur projette cette couverture de fillette qui est le Cosette hein, des années 1920, donc que les adolescents te lisaient. C'était en 1920, donc c'est ma grand-mère, hein. Ou même pas, non, d'ailleurs c'est ma mère.
Oui,
c'est entre les deux. C'est entre les deux. Et donc Rialette, la petite colonelle, qui est l'histoire de la petite fille qui était prisonnière en fait, pour une histoire complexe. Son geôlier tombe malade, et qu'est-ce que fait la petite Rialette? Au lieu de lui mettre un coup de pied dans les fesses et de s'en aller, elle se penche charitablement sur son ancien geôlier, et celui-ci la remercie. Ce remerciement naïf émut profondément la jeune fille. Le noir avait une âme, une conscience. Il comprenait le beau, le bon. Allons, murmure Rialette, il était temps que nous vinssions ici apprendre à ces pauvres gens que tous les hommes sont frères et que l'on doit s'aider les uns les autres. Et j'essaye de faire comprendre aux participants, penser à ce que cette lecture peut engendrer dans l'imaginaire d'une adolescente de 12 ans. La démarche charitable de la colonisation, avec toute la naïveté d'une adolescente de 12 ans. Ben ça, c'est justement, c'est ma mère qui avait ça. Et un autre ensuite, je leur fais lire un texte qui est les Nasirema, donc qui est un pastiche des Américains écrit à la façon des explorateurs du 19e siècle pour leur faire comprendre à quel point l'auteur fait appel au levier inconscient que nous avons toujours en tête de la colonisation. Toujours. Et bon, voilà, le dit le capitaine Menred, les peuples étranges, leur montre que voilà, cette case fidjienne avec une structuration qui est extrêmement stéréotypée, avec l'indigène à moitié dévêtu, parce que c'est normal, les indigènes c'est très érotique, avec le plat commun, c'est normal, les indigènes ils mangent tous la même chose, les hommes qui complotent et le vieux qui surveille. C'est pétri de stéréotypes. Et je fais comprendre aux participants que le stéréotype a pour ça, dans toute l'humanité, de puiser dans la réalité ce qui le conforte et de toujours être aveugle sur ce qui peut le contredire, constamment. Alors, les stéréotypes, parce que moi je ne parle pas de racisme, je parle de stéréotypes. Et je leur montre ce jeu brésilien qui était une borne interactive dans le musée des arts et traditions populaires à Belo Horizonte. Musée des arts et traditions populaires, c'est quelque chose de toujours très édifiant, on fait venir des enfants pour montrer. Et le jeu, c'est de mettre en relation le colporteur avec les produits qu'il colporte et les clients. Et donc, c'est la construction d'un stéréotype. Puisqu'on a Louis Dupré, le français, qu'il faut mettre en relation, et bien évidemment, ça va être avec la jolie fille et les parfums. Hein, s'il va vendre des parfums à la jolie fille. Le tzigane, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va vendre des casseroles à la docela, la mère de famille qui fait des doses, des bonbons. Et le texte expliquant qu'elle espère pouvoir marchander contre un peu de nourriture aux tziganes la capacité de réparer ces trucs. Le portugais qui va vendre à l'esclave affranchi, etc., etc. Et le turc qui va vendre à la bordadera, à la brodeuse. Donc, ça c'était en 2012. 2012, on a une construction volontaire de stéréotypes. Je pense qu'un tel jeu en France aurait suscité un certain nombre de critiques. Enfin, j'ose espérer. Et partant de là, je leur montre aussi les signes de discrimination inconsciente qui sont dans notre environnement quotidien. Birakem, le graphisme a osé mettre une femme en boubou pensant des informations personnalisées devant un distributeur automatique. Et je leur demande, à votre avis, qu'est-ce que le graphiste a voulu mobiliser dans votre inconscient pour faire passer son message ? Pardon ? Ben c'est le plus horrible que vous pouvez imaginer, évidemment. C'est le plus horrible, c'est-à-dire que si on met ça en scène, cette femme en boubou, c'est parce que si elle est capable de comprendre, tout le monde sera capable de comprendre. Et le stéréotype, encore une fois, inconsciemment, va se retrouver conforté. Jardin du Luxembourg aussi, je leur montre ça. Donc les trains, les Français ont changé, mais ils aiment toujours le train. Et la SNCF innove pour que l'histoire d'amour dure. Avec le sous-titre, évident, quand on analyse un peu sémantiquement ce montage, la France fout le camp. La France fout le camp. Elles sont même pas dans le train, hein, les dames. Elles sont même pas dans le train. Et on les voit de dos. Sauf que, et ça c'est le point essentiel que j'essaye de faire comprendre aux participants, c'est dans l'inconscient. C'est-à-dire, vous passez devant, si vous n'avez pas un arrêt sur image, vous posez des questions, et ben ça reste, et ça va renforcer votre stéréotype. Alors, ce genre de démarche n'est pas toujours bien comprise, hein. Il est clair que même jeudi dernier à Sciences Po, là, je fais ça à Sciences Po, sur mes 13 étudiants, il y en a deux qui disent non, vous exagérez, c'est pas ça. Je dis, moi, je ne cherche pas à vous convaincre, mais réfléchissez, quand vous verrez des signes comme ça dans l'espace public, à ce qu'a voulu dire le graphiste et quels sont les leviers inconscients qu'il a voulu mobiliser pour faire passer son message. Je leur montre qu'on aurait pu dire la même chose, ça c'est une autre. Un autre montage qui dit exactement la même chose. Les Français ont changé, voilà, mais le petit gamin qui prend sa photo, là, il n'y a pas de souci. On peut dire la même chose sans avoir recours à ces choses-là. Donc, parler de posture d'ouverture plus que de connaissances formelles. Hein. Légitimer de penser sur le sujet et intervenir. Faire attention à l'assignation identitaire. Attention, hein, que voilà, la petite Fatoumata qui vient en CP et à qui la maîtresse lui dit « Bonjour Fatoumata, tu viens d'où ?» Elle dit « Je viens de l'avenue Georges Jaurès. » Et la dernière lui dit avec un grand sourire « Mais c'est pas ça que je te demande. » Et la pauvre, ça va la suivre toute sa scolarité. Bah, ça, c'est le truc aussi qu'il faut que les acteurs de première ligne prennent conscience. Donc, il faut qu'ils prennent conscience. Et puis, bon, aussi comprendre ce que l'institution exige, demande, et j'essaye de leur faire toucher du doigt à quel point le fonctionnement institutionnel, bon, inspiré d'Étienne et aussi de Pierre Legendre, est une mise en ordre d'un désordre individuel, quelle que soit l'institution. L'institution, elle va nommer le désordre. Médical, ça va être la maladie, judiciaire, ça va être le délit, éducatif, ça va être la lacune, social, ça va être le besoin. Et donc, transformant la relation avec l'usager, qui va devenir un patient, injusticiable, un bénéficiaire ou un élève. Et bon, les institutions ont quelquefois des frontières assez floues. Hein. Un gamin en difficulté pourra se retrouver au CMP ou à la PJJ suivant qu'il y a de la chance ou pas. Hein. Donc voilà, on ne sait pas trop. Surtout avec la DSM-5 maintenant, les troubles du spectre autistique et les troubles de conduite où vraiment on a des choses qui s'interprennent nettes, qui relevaient encore du tribunal et de l'AEMO naguère et qui maintenant vont être pathologisées. Mais dans cette démarche de remise en ordre et de nommer, l'étrangeté, la bizarrerie, le fait de venir d'ailleurs, va être très vite intégré dans les processus institutionnels comme un désordre. C'est-à-dire, le simple fait d'être étrange, je ne dis pas étranger, d'être étrange, de bousculer le repère institutionnel, va être intégré dans le dispositif de remise en ordre. Ça sera une pathologie. Ça sera un délit, ça sera une lacune, ça sera un besoin. Et l'institution a toujours tendance à intégrer dans son corpus épistémologique tout ce qui lui semble bizarre, tout ce qui lui semble relever du désordre. Et faire prendre conscience à ces acteurs de première ligne que l'institution leur demande de faire des choses qui sont peut-être pas les bonnes, c'est peut-être le plus difficile. Parce que du coup, ça leur fait prendre une distance par rapport aux injonctions institutionnelles, et certainement les mettre un peu dans l'inconfort. Parce que toute cette démarche pédagogique, que je viens de résumer très brièvement, ça parle aussi de déprise, c'est-à-dire où l'institution se déprend du contrôle de l'usager, de la personne, remet à égalité. La situation d'altérité, c'est se mettre dans une situation d'égalité et non pas de surplomber, où l'institution surplombe l'usager et dit à l'usager ce qu'il doit être, ce qu'il doit faire. Et c'est donc à ce titre très très bousculant. Alors, j'ai demandé justement aux personnes, parce que je travaille un article aussi qui m'était demandé là-dessus, et puis peut-être un livre, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et donc Monique Boutelot m'a envoyé ça parce qu'elle ne pouvait pas venir avec nous, puisqu'elle elle habite maintenant en province, et elle m'a demandé de vous lire sa contribution. C'est avec grand plaisir que j'aurais aimé vous témoigner l'expérience de collaboration avec Stéphane et d'être à vos côtés aussi, je vous prie d'en excuser. Ce module pédagogique intitulé « Interculturalité à la rencontre de l'autre » est à destination de 120 infirmiers étudiants, puériculteurs ou puéricultrices. Il se décomposait en deux temps sur 7 heures. Une intervention active en amphi pour sensibiliser les étudiants à plusieurs concepts, culture, appartenance, identité, communauté. Ensuite, il était demandé aux étudiants de rédiger chacun une vignette d'une expérience vécue en situation professionnelle ou pendant les stages de la formation et les faire réfléchir en TD par petits groupes de 25. Le TD était de 3 heures. La priorité était de réinterroger la place de la puéricultrice dans la société et sa raison sociale selon la diversité des attentes des usagers et la singularité de leurs demandes, dans le respect de leur culture et de leurs traditions. Le but est de permettre aux étudiants de s'approprier une posture professionnelle face à la culture du patient ou de sa famille en décodant les pratiques sans les juger, qu'est-ce que l'autre m'apprend et qu'est-ce que j'apprends de l'autre. Cette modalité pédagogique a été mise en place pendant 8 ans et s'est arrêtée suite à mon départ en retraite. En effet, j'animais ce module avec grand plaisir, je coordonnais le recueil des vignettes avec une collègue pour construire un petit fascicule pour tous les étudiants, composé de toutes les vignettes rédigées par le groupe. Stéphane faisait réagir nos étudiants, les provoquant sur la question de l'interculturalité, pour faire tomber les stéréotypes. Certains étudiants réagissaient positivement, d'autres étaient imperméables à la discussion constructive. Nous avons constaté qu'une partie de ces derniers résistait moins, une fois diplômés, quand les formateurs les retrouvaient sur le terrain. Ils ajustaient de manière surprenante leur posture. Les grains semés par Stéphane contre vents et marées produisaient leurs fruits. Au cours du TD, Stéphane détricotait la rédaction des vignettes et questionnait les étudiants sur leur isolement dans les situations complexes non débattues en équipe dans le service. Ce travail mettait en lumière combien toutes les situations évoquées témoignaient de la solitude des soignants face à toutes les problématiques relatives à l'interculturalité. Les soignants restent souvent désarmés et n'ont comme porte de sortie, bien souvent, que le raccourci du jugement de valeur parce que non débattu en commun. En fin de formation, nombreux sont les étudiants qui reconnaissaient avoir compris tardivement le message, ce qui démontrait la réponse pédagogique pertinente sur la question de l'interculturalité. 8 années pendant lesquelles la dynamique des groupes était caractérisée de l'investissement et de la motivation des étudiants. 2 nouvelles collègues, recrutées suite à mon départ, ont suggéré d'aborder ce module différemment en présentant une nouvelle intervenante plus conformiste. Bizarre, vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. En effet, la même aventure est arrivée à Étienne, petit clin d'œil en passant. Comme moi, à l'école, son départ en retraite a entraîné l'arrêt de la formation qu'il animait. Même thématique pour un module pédagogique destiné à des adultes et départ en retraite du pilote du module. Je fais référence à l'importance du charisme du pilote de projet quand il part. Les choses très souvent se délitent, voire s'écroulent, ou perdent le sens initial du contenu. Que faut-il en déduire? Une chose est certaine, dès qu'une formation est proposée sur ce thème, les inscriptions sont nombreuses. Combattre les préjugés est une réalité des formateurs. Tendre une perche aux soignants est une opportunité afin de se mettre au travail pour traiter les vraies questions occultées pendant les formations initiales ou abordées en cloisonnant chaque culture par pays. Et il y a 10 points d'exclamation après. Les apports théoriques saucissonnent alors les cultures et apportent peu d'éléments cognitifs sans questionnement. L'objectif majeur est de donner des outils aux soignants pour tenter de faire face à des situations non traitées en formation. Quelles questions dois-je me poser? Sur quel soutien je peux compter? À qui je peux en parler librement? Comment réagir auprès de la famille? Quelle bibliographie à consulter pour aller plus loin? Enfin, sur la forme, on peut s'interroger sur la routine potentielle de ce module où peut-être nous n'avons pas assez posé les éléments en équipe. Nous effectuons un bilan annuel du vécu des étudiantes qui était dans l'ensemble satisfaisant, excepté les réfractaires à ces démarches d'ouverture pour éviter les stigmatisations. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Donc Monique.
Merci.
Qui, encore une fois, a mis en place ce module à la suite de Besançon. On avait fait ça. Alors, il est clair aussi que j'ai eu des retours qui étaient négatifs, avec des gens qui souhaitaient avoir des recettes qui rassuraient, avoir des descriptions fixantes des cultures, comment aborder un Africain, comment en aborder un Asiatique, afin de littéralement comprendre, c'est-à-dire prendre avec, maîtriser. C'est-à-dire en fait, reproduire le schéma institutionnel de remise en ordre, qui est ce qu'il aurait demandé. Et je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui resteront définitivement imperméables à ce genre de démarche. Bon, alors, quand même, j'ai fait un petit don, donc en particulier à Gonesse, peut-être que tu pourras nous en dire un petit peu plus après, et puis aussi à l'Académie de Versailles, où depuis 3 ans, ils m'ont demandé de faire un module auprès des infirmières scolaires, donc sur l'interculturalité et soins. Donc je vais anonymiser les réponses, et cette formation m'a apporté des explications sur mes a priori et m'a permis de me poser des questions, de me rendre compte que la notion est complexe. Il faut avoir confiance dans les ressources de l'autre, savoir prendre du recul par rapport à l'autre, essayer de comprendre sa différence sans jugement. C'est une formation très riche en enseignements sur la propre histoire collective. On aborde par petites touches celle des autres nations, mais il faudrait plus de temps pour tout développer. Merci. Donc, voilà. La formation fut un moment d'analyse de ma pratique en tant qu'infirmière. L'approche pédagogique qui a dans un premier temps suscité un réel questionnement sur ma pratique antérieure. En effet, bien que je sois depuis le début de ma carrière attaché à la lutte contre les stéréotypes, et particulièrement dans un contexte de soins, j'ai en l'espace d'une matinée réalisé que cette lutte devait être davantage travaillée et conscientisée par les soignants. J'ai pu par la suite transférer le résultat de ce questionnement à ma pratique actuelle et modifier le regard que je porte, etc., etc., etc. Cette formation a permis de connaître l'évolution historique de l'éducation pour la santé, ce qui a mis en évidence l'importance des stéréotypes que nous avons tous. La différence ne doit pas enfermer l'autre, il s'agit donc aussi de prendre de la distance par rapport à sa propre culture et d'être dans un processus qui laisse à chacun sa liberté individuelle. Mais au-delà de cette réflexion enrichissante, je regrette qu'on n'ait pas eu davantage de temps pour réfléchir autour de situations concrètes. J'ai écouté avec la plus grande bienveillance votre conférence, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé de réponse bien concrète pour notre profession d'infirmière scolaire. Les problématiques abordées étaient intéressantes, mais comme vous le disiez, nous avons à gérer les deuxième ou troisième générations de la migration, alors quoi faire? J'ai cependant apprécié de connaître certaines particularités inhérentes à certaines populations, cela éclaire certaines réactions. Vous voyez, là, bon, on ne s'est pas compris, quoi. Alors, une autre, alors là, celle-là, j'avoue qu'elle m'a fait rougir. Cette formation devrait être obligatoire pour tous les corps de profession de la fonction publique. Elle est riche et complète, elle permet de dédramatiser certaines situations que l'on rencontre sur le terrain. Pour ma part, étant né en France mais de cultures différentes, j'ai eu la chance de baigner dans une diversité culturelle du fait de mes origines, mais aussi du fait d'avoir grandi dans une cité entourée de familles venues d'ailleurs. Afrique noire, Maghreb, Europe en général, Asie, Amérique latine. Vos anecdotes me parlaient, j'avais l'impression que vous relatiez des choses que j'ai vécues, vues, entendues. En arrivant à cette formation, je m'attendais à ce que le formateur juge les coutumes, cultures et les religions. Mais à ma grande surprise, j'en suis sorti ravi, heureuse que vous fassiez propager un message de tolérance, de respect des valeurs et principes des uns et des autres, même si ceux-ci ne sont pas les nôtres. L'importance de l'écoute d'autrui, du fait de chercher à comprendre certains comportements dans des situations qui peuvent paraître complexes et souvent choquantes. Dans le contexte politique, économique et social d'aujourd'hui, nous sommes et serons de plus en plus confrontés à ces familles venues d'ailleurs, avec des cultures différentes. C'est un travail qui peut paraître dur, et qui l'est, mais je reste convaincu que les mentalités peuvent changer si on les bouscule et si on les fait pousser à la réflexion. Il faut les vouloir et nous en donner les moyens via des formations telles que celle-ci. Merci de m'avoir conforté dans ma façon de travailler, mais surtout merci de m'avoir redonné confiance en l'homme blanc, entre guillemets, façon de parler bien entendu. J'avoue que j'ai été très très touché par cette analyse. Là, on était vraiment en phase totale, ensemble. Mais comme vous le voyez, c'est pas unanime. Comme vous voyez, il y a des gens qui n'ont pas, qui n'ont pas accepté. Alors, je ne sais pas si, Marie-Claire, tu veux, par rapport aux interventions que tu m'as demandé de faire, oui. Et en particulier laïcité, la dernière.
Voilà 3 ans, effectivement, que tu interviens. Alors, la première fois, en 2014, une commande m'est faite par ma directrice au centre de l'Institut de formation en soins infirmiers. Elle dit que l'interculturalité... est une thématique très importante, il faut à tout prix que tu l'abordes auprès des étudiants dans le cadre de l'unité optionnelle. Et il faut que tu montes un projet et à tout prix que tu fasses passer ce message. Je dois avouer, j'y connais rien. J'y connais rien à cette époque. Je ne vois pas de quoi elle me parle. Donc je me mets à faire une recherche importante sur ce concept au point de m'y noyer et au point d'être hyper conceptualisée dans la dynamique de cette thématique. J'en parle à ma directrice qui me dit j'ai rencontré une directrice qui connaît M. Tessier, il est super, il faut que tu lui parles de ton projet. Et plus je parle avec ce monsieur, plus il me fait découvrir que je suis en train de m'excentrer, que je suis en train de très gentiment, hein, de manière très diplomate, que je suis en train de me noyer effectivement dans des concepts qui ne me donnent pas de sens. Je suis un peu perdue, dérangée, déjà par ce qu'il me dit, parce que j'ai beaucoup travaillé, et il réduit mon travail à peau de chagrin, et j'en suis désolée. Mais malgré tout, j'écoute ce qu'il me dit, et j'insiste énormément sur la mise en sens. En tout cas, je suis toujours quelqu'un qui est dans la quête de sens, et je veux comprendre ce qu'il est en train de me dire, avec habileté. Donc, j'accepte en tout cas qu'il vienne intervenir à l'école d'infirmières. Et je change mon projet et je vois qu'il est en train de me dire que l'interculturalité, c'est une philosophie, une éthique, une façon de penser différente qui m'amène à prendre conscience de l'autre. Alors que moi, je sors de la psychiatrie et je me sens culpabilisée. Je pense avoir toujours été en direction de cette altérité, de l'avoir écoutée avec l'écoute attentive nécessaire. Et je me rends compte que j'avais une fixité d'une école de pensée porteuse de d'ethnopsychiatrie, d'ethnopsychologie, qui m'enfermait dans une façon de penser. Et je me sens responsable de ma posture d'enseignant, puisque je vais auprès de 86, 90, 100 étudiants enseigner des thématiques qui respirent ma manière de penser. Donc je me sens fortement responsable et je dois orienter ma manière de voir les choses. Et l'interculturalité a été un basculement pour moi dans ma cognitivité en tout cas. Et alors j'invite ce monsieur auprès d'un public et je vois qu'il dérange. Il dérange. Il fait appel à nos refoulés, à nos a priori. Mais il dérange, mais il recentre. Il recentre notre manière de penser. Et c'est positif, vraiment positif pour nous, pour les étudiants. Et de ce fait, dans ce projet, je leur demande de construire des ateliers où ils vont se parler, où ils vont échanger et construire des thématiques, différents ateliers en fonction de ce qu'ils sont, les habiter et transmettre cette construction d'ateliers auprès d'étudiants de première année. C'est-à-dire ces étudiants de troisième année qui vont monter des ateliers et qui vont rencontrer les premières années avec leur construction. Première expérience, ça marche. Je réitère une deuxième année associée à la douleur, interculturalité et douleur, avec plusieurs thématiques sous concept associées qui sont l'accouchement, la douleur au travers des siècles, la douleur et les genres, et la douleur à la campagne et à la ville. Même processus, je leur fais construire des ateliers, toujours avec la transmission auprès des premières années, et ça marche. La directrice me fait une autre commande. Troisième année, elle me dit, il faut à tout prix que les étudiants soient intéressés à la laïcité. C'est une thématique importante, il faut à tout prix que tu construises un projet. Mais je sentais que je ne pouvais pas me dissocier de l'interculturalité. D'ailleurs, monsieur Tessier me disait... on ne peut pas parler de laïcité sans interculturalité. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Vous imaginez que ça me bouscule encore? Et je construis ce projet et ça marche. Ça marche auprès du public, parce que l'interculturalité, effectivement, respire de la laïcité.
Ouais. Gonesse, tu as quand même un amphi qui est extrêmement diversifié.
Ah oui, une pluralité culturelle, là, dans plusieurs bassins de vie, etc., beaucoup de richesses. Donc, on construit la loge, des ateliers, etc., des échanges, etc., ça passe. Et le message passe, vous voyez. Mais il faut à tout prix que les formateurs qui enseignent, en tout cas, moi, c'est je vais conclure là-dessus, aient cette ouverture. S'il y a un hermétisme avec l'école de pensée, on peut être affilié à une école de pensée, ne pas vouloir en sortir, eh bien, il n'y aura pas passation de cette information, pas passation... je dirais, d'un message, parce que c'est un message qu'on doit transmettre une nouvelle, en tout cas, façon de penser.
Mais, non, mais je crois que ta conclusion est très juste, c'est-à-dire que quand tu partiras à la retraite, ça fera la même chose qu'ailleurs. Oui. On voulait revitaliser le DU Hein, le diplôme.
Non, je dirais pas parce que les jeunes qui sont là, les nouveaux formateurs, ils sont intéressés.
On croise les doigts. On croise les doigts. Oui, je sais, je vois à qui tu fais référence. Non, mais je croise les doigts. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais on voulait faire le diplôme universitaire, donc toujours en tête. J'avais contacté Sainte-Anne, formation. Sauf que les deux sont en cours de prise de retraite. Les deux personnes qui partaient. Donc, on a eu une réunion qui a conclu à la possibilité. Alors, voilà. C'est ce que je mettais dans l'argumentaire. Est-ce que c'est une histoire de vieux? Je veux dire, est-ce que cette notion d'interculturalité telle qu'on l'envisage, c'est notre génération qui le porte, et uniquement? Alors bon, effectivement, il y a quelques jeunes qui sont bien branchés à connaître sur lesquels, mais c'est très exceptionnel. Moi, je n'ai pas rencontré beaucoup, beaucoup de très jeunes dans les institutions qui étaient susceptibles de porter cette réflexion-là. C'est une réflexion qui est quand même datée, hein. Elle est datée des années 70. Moi, hier, il y avait John Bess avec les droits des femmes, les droits des Noirs, etc. On a été socialisés là-dedans. Les jeunes générations, ils ont eu ça tout cru, tout cuit, dans le bec quand ils sont nés. Ils ne savent pas ce que ça demandait d'engagement, d'implication, de réflexion, de défense. Et de défense, parce que c'est très menacé et ça peut être facilement remis en cause. Voilà, c'est des questions, je n'ai pas de réponse, hein. C'est des hypothèses, des questions. Mais le fait est que dès que le porteur du projet part à la retraite, mais bon, après on en trouve d'autres, hein. Comme voilà, y a ils connaissent.
Ouais. Mais je pense aussi, c'est lié aussi au contexte, vous parlez du débat, je me rappelle quand j'ai fait les premières manifestations en 83-84, on parlait de la différence culturelle. Le marge Weber s'était basé là-dessus, il y avait une différence avec comme une idée que c'était encore quelque chose qui était prégnant. Et après, depuis quand même 30-40 ans, il y a quand même un couvercle qui a été mis là-dessus. On a été basé sur l'intégration, l'assimilation, la peur de l'autre, comme tous les. Comme dans une société où c'est quand même très très anxiogène, tout le discours politique depuis des années. Oui. Comme quand vous n'êtes pas en confiance, vous n'êtes pas sûr de vous-même, ça n'aide pas à l'ouverture à l'autre. Donc je pense qu'il y a aussi tout un travail à faire et je ne pense pas que les gens soient forcément insensibles. On a mis le couvercle, je pense que les gens le vivent de façon quotidienne. Et voilà, c'est complètement enfermé. J'ai écouté l'intervention de la jeune. Mais tout à l'heure là, qui vous a fait rougir. Mais je pense qu'elle a entièrement raison. C'est-à-dire que je pense qu'il faudrait en effet des formations comme ça, dans tous les personnels, dans la fonction publique. Moi, ça fait pratiquement 30 ans que je suis dans l'éducation nationale, et je peux vous dire que j'ai encore beaucoup de méconnaissances. Ne serait-ce qu'au niveau des enseignants, différents corps, il faudrait que tous les corps soient sensibilisés à ces choses-là. Ne serait-ce que les relations avec les parents d'élèves. Voilà, c'est pas les publics africains, moi ça fait quand même. Depuis 20 ans, je suis dans des établissements où c'est très très diversifié. Et j'entends beaucoup de bêtises là-dessus, parce que les gens ne connaissent pas. Et donc, je pense qu'il y a encore. Tant qu'on. Il faut aussi une volonté politique. Alors, évidemment, après, par rapport à votre projet, le fait que vous dites ça repose sur une personne, quand la personne part à la retraite, on a l'impression que. Alors, je pose la question, est-ce qu'il faut institutionnaliser aussi? Est-ce qu'il faudrait que ça soit, entre guillemets, institutionnalisé? Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi que ça rigidifie tout? Et les deux vont se débattre. D'un côté, le fait que ça ne soit pas forcément institutionnalisé, qu'on soit dépendant de certaines décisions, et ben ça fait que la chose se perd après. Voilà, il y a plein de.
Non, mais c'est sûr, il y a la souplesse.
Il y a plein de questions, mais c'est vrai que pour que ça porte ses fruits, il faut que ce soit dans la durée. Là, ce que vous faites, là, par exemple, c'est 3 ans, ça commence à avoir du sens pour vous, et vous voyez que ça fonctionne, que ça commence à imprégner.
Justement, je voulais poser la question s'il y a eu une démarche au niveau de l'éducation nationale pour que d'autres personnels, parce que moi je suis venue la première fois vous écouter, je ne sais plus si c'était en 2011, 2012 ou 2013, et c'était plus le personnel médico-social de l'éducation nationale qui était convié. Bon, je n'y étais pas, mais je suis allée quand même par curiosité parce que la thématique me parlait fort. Et j'ai l'impression que c'est resté au niveau. Des personnels médico-sociaux seulement. Parce que les professeurs et les jeunes professeurs, dans la relation aux parents, dans la relation aux élèves issus d'autres, d'autres cultures. Là, tout à l'heure, j'écoutais M. Leroy quand vous parliez de l'oncle qui, enfin, dans certaines cultures, on ne parle pas d'oncle, mais on parle de père, même si c'est l'oncle, enfin, toutes ces choses-là. Quand on a affaire à une famille qui se déplace avec une personne dans la famille qui a plus de prégnance sur l'enfant, enfin l'enfant pour le coup, et qu'on dit, ben non, vous n'avez pas l'autorité parentale, donc on ne vous laisse pas rentrer, donc on ne vous écoute pas, donc on fait beaucoup de gâchis parce qu'on casse la relation au sein de la famille même, et l'élève est perdu du coup et se dit, mais je suis en face d'adulte, il ne parle pas le même discours, enfin, qu'est-ce qui se passe? Et on a beaucoup de... On provoque beaucoup de difficultés et la relation au savoir de l'élève, pour le coup, se trouve ébranlée. Et on a beaucoup d'élèves, bon, il n'y a pas de chiffres exacts, mais moi je constate dans ma pratique quotidienne d'élèves qui lâchent la relation parce qu'il a eu à un moment donné des adultes qui ne se sont pas compris. Et donc il s'éloigne petit à petit de sa manière d'investir les apprentissages.
Alors, pour répondre à votre première question, l'éducation nationale, par expérience, chaque fois que j'ai envoyé une proposition, j'ai même pas eu de réponse. Ouais. Jamais. Ça a toujours été la démarche que Marie-Claire décrivait, c'est quelqu'un qui dit que ça l'intéresse et qui se met à réfléchir et qui pianote sur Internet, qui téléphone et puis qui vient nous solliciter. C'est toujours comme ça. Et c'était comme ça l'Académie de Versailles, le rectorat de Versailles, s'est tourné vers moi pour me demander de faire cette formation pour le personnel médico-infirmier. Quand j'ai fait, je ne sais pas si c'était au séminaire de Daniel ou c'était avec le RASED. Quand j'ai fait une rapide présentation à Vitry et de ça, ils m'ont dit, mais où est-ce que vous vous cachiez? Je dis, je suis le bureau juste à côté, là. Le bureau juste à côté. Mais bon, c'était vous, non? Donc Vitry aussi. Très bien. Bon, ben merci d'être venu. Voilà. Mais il faut dire qu'on est sollicité de toutes parts. Hein. Donc l'inspection académique, elle reçoit des propositions de formation à ceci, à ceci, à cela. Et puis elle ne sait pas non plus, y a à boire et à manger dans les propositions. Et puis, il y a quand même cette concurrence, et qui m'a pris le marché, entre guillemets, parce que ça a vraiment été comme ça que c'est passé, de l'Institut de Puriculture, avec des gens, c'est Isabelle Lévy, je n'ai aucun problème pour la nommer, parce qu'elle a pignon sur rue, vous tapez son nom, vous verrez, elle écrit « soigner un bouddhiste, soigner un musulman », voilà, etc. Et elle a tapé dans l'œil des jeunes formatrices venant d'arriver à l'Institut de Puriculture, dans un colloque. Elles sont tombées vraiment en admiration, parce qu'enfin, elle éclairait en donnant des recettes, voilà comment vous faire avec un bouddhiste, voilà comment vous faire avec ça. Elles sont venues la voir en disant « on vous confie tout le module interculturalité ». En lieu et place de là où je bousculais un petit peu trop les représentations. Et ça, il y a plein de formations là-dedans. Il y a plein de propositions et qui sont beaucoup moins bousculantes, beaucoup plus confortables, à la fois pour l'institution, parce que ça conforte l'institution dans son désordre, sa remise en ordre, et pour les professionnels, parce qu'on ne leur parle pas de refouler, on ne leur parle pas de choses. Donc on est quand même dans un terrain difficile.
Oui. Et devant tout ça, on a besoin... On sent que les gens ont besoin d'homogénéisation, qu'ils ont énormément de difficultés bousculées par la pluralité des événements qui tournent autour d'eux et le caractère non seulement inattendu, mais totalement déstabilisant. Hein, et on rajoute les attentats, etc. Et on se déclare en guerre contre une civilisation, etc. Et donc tout ça, ça ajoute au traumatisme. Et donc, ce besoin d'homogénéisation va passer par une réponse qui est basée sur l'uniformisation. Et l'éducation nationale, elle est le garant de cette uniformisation. Moi, j'étais discuté avec le médiateur de l'éducation nationale au moment où elle était véritablement extrêmement proche des idées donc, gauche pluraliste, si vous voulez, qui permettait de discuter avec elle. Elle dit, oui, mais je ne peux pas travailler dans la dentelle lorsque je dois faire de la masse et répondre par des procédures stéréotypées à des besoins qui sont si fondamentalement différents les uns par rapport aux autres d'un moment à un autre que je ne peux pas y répondre. Donc, la solution, c'est utilisant un modèle unique. On a un collège unique pour former les élèves. Eh bien, on va avoir en fait un modèle unique. Et donc, nous nous trouvons totalement dépassés par ce besoin qui, en plus, est associé à la transformation de l'économie globale avec la généralisation d'un capitalisme qui fait que se développent des modes de consommation qui sont aussi valables de Tokyo à Tamanrasset en passant par Paris, etc. et qui font que ce modèle de consommation lui-même totalement stéréotypé impose non seulement des comportements de consommation mais des modes culturels. Si on est en train d'accoutumer le modèle de l'école de droit au modèle des grandes universités américaines, Harvard, etc. C'est pas du tout parce que on y viendrait naturellement, c'est parce que les contraintes de la concurrence à l'échelle mondiale sont telles que si une université comme Paris 1, 42 000 étudiants, 2500 enseignants, etc., veut continuer à être présent sur le marché mondial, il faut qu'il soit dans les contraintes dans les rails du système. Et en ce cas-là. Donc, c'est vrai qu'on se trouve, en difficulté. Est-ce qu'on est le dernier des Mohicans ? Moi, je crois pas. Je crois pas parce que derrière ce mouvement-là, moi, je vois émerger un autre. Je travaille beaucoup sur le mouvement des communs, qui est en train de pas simplement au niveau de pratiques un peu bizarres, nostalgiques de la guerre de tranchées à propos de Notre-Dame-des-Landes ou des choses comme cela. Parce que derrière la révolution numérique, il y a la réintroduction dans la société de l'idée de partage. Idées de pluralisme, qui sont des éléments fondamentaux donc dans la culture des communs. Donc, à côté de ce mouvement, qui est un vrai rouleau bulldozer, il y a des choses qui sont en train d'apparaître et qui apparaissent de plus en plus visibles. Donc, ce que je suppose, c'est que la nouvelle donne, elle est autour de la culture des communs.
Sans référence politique. Nouvelle donne, maintenant, c'est connoté.
Ah, oui. Bon, ben, pour moi, c'est le New Deal de Roosevelt.
Oui, mais on peut... Oui, tout à fait. Ben, c'est un sujet qu'on va aborder à regard, normalement.
Oui.
Pardon.
Oui, ben, moi, je voulais vous remercier. D'abord, Étienne nous a... C'est passionnant, cette histoire. De reprendre regard comme ça, dans sa longueur, dans ce qu'il a... motivé, créer les aléas du mouvement, quoi, de faire en marchant, c'est fabuleux, quoi. Enfin, c'est très très intéressant. Bon, évidemment, complété par Stéphane, avec qui je travaille un peu plus, je sais un peu mieux, mais la question des institutions me questionne, enfin, la question me questionne, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, dans les débats politiques que je regardais dernièrement, celui de Mediapart, sur les institutions, justement, et il y avait des tenants, des défenseurs des institutions et d'autres qui disaient que l'institution était un danger, comme il semblait que ça a été dit là tout à l'heure. Et pour moi, c'est une vraie question, parce que je pense vraiment que l'institution, c'est une sauvegarde. C'est une sauvegarde... Par exemple, alors là, il est question de supprimer le Conseil constitutionnel pour deux ou trois candidats, enfin, c'est la 6e République. Donc le rapport aux institutions, moi, je trouve que elles sont essentielles, les institutions. Elles nous écrasent, tout ce que vous voulez, mais elles permettent aussi que des actions locales, comme celles de Regard, mais aussi des actions sur le terrain, sur les mesures par exemple, puisse être porté et se travailler. Donc c'est une vraie question pour moi, cette question de l'institution, parce que je crains, par exemple, que l'extrême droite ne supprime les institutions. Voilà. Je crois vraiment que la justice est menacée par l'extrême droite, que l'école va être formatée, que voilà, que la santé va être détruite. Enfin, vous voyez, je suis dans une idée comme ça que l'institution, c'est quand même un des remparts de la liberté collective. Vraiment. Je me pose la question vraiment, parce que quand j'entends toutes les attaques institutionnelles, ça me fait peur. Voilà.
Et c'est un débat qu'on a avec Étienne depuis.
Oui. Parce que il faut distinguer entre les institutions et les valeurs qu'elles représentent, qu'elles habitent. Et je crois qu'il faut avoir la possibilité de jouer sur cette profondeur, qui est une profondeur historique, une profondeur conceptuelle, une conception de la complexité des situations dans lesquelles nous sommes en train de vivre. Autant il faut des formes d'organisation, autant ces formes d'organisation doivent être soumises à l'appréciation de l'ensemble des citoyens, qui doivent pouvoir apporter et leur contribution et leur évaluation quant à la portée et à la place. Dans ce que je viens de décrire très brièvement, cette tendance à l'uniformisation, on passe à travers cette culture du chiffre que l'on retrouve partout, on retrouve à l'hôpital, que l'on retrouve à l'éducation nationale, qu'on retrouve à la justice, qu'on retrouve dans la police, etc. Ce sont les mêmes processus. Donc on voit apparaître une standardisation totale qui finalement aboutit par des formes d'anonymat à expulser l'acteur de ses responsabilités et de la place même dans la société. Donc, en critiquant un certain nombre d'institutions, on fait en fait, à mon avis, la politique du Front National, que de positionner d'autres types d'institutions qui sont peut-être encore plus dramatiquement négatifs, hein, mais on reste à l'intérieur du même type de dispositif. Or, ce qu'il faut, c'est aller jusqu'au bout de la remise en question, comme Pierre Lejeune le faisait dans ses différentes analyses que nous discutions à Besançon, comprendre d'où nous vient notre culte de l'État, notre dépendance comme un drogué à l'égard d'un certain nombre de représentations. Le manque de distance critique par rapport à la manière dont on peut mobiliser les ressources d'une institution. Donc, ce qui est, je crois, passionnant, c'est que dans un monde qui change, il y a toujours des choses qui sont en train d'émerger sans que, généralement, le mainstream, disons, le prenne vraiment en conséquence. Donc, il y a des choses qui sont en train d'émerger. Ce que j'évoquais à travers cette culture des communs, c'est beaucoup plus que simplement la culture des communs, c'est véritablement une culture qui, à travers la reconnaissance du pluralisme dans l'organisation des sociétés, cherche véritablement à protéger la part de liberté sans laquelle il n'y a plus, pour nous, de vie en société, en tout cas de société démocratique. Donc là, le combat est absolument fondamental et il passe par l'acceptation de la remise en question d'un certain nombre de choses, non pas pour les détruire, mais pour les enrichir, comme on passe de l'uranium au plutonium. On va plus loin encore. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure de manière trop rapide à propos de la pluralité, de la laïcité. Ne me faites pas dire que je suis pas je suis contre la laïcité, mais la laïcité telle qu'elle se pratique trop souvent est peut-être aussi une religion obscurantiste.
Oui, enfin, faut pas faire dire la laïcité ce qu'elle ne dit pas.
Oui.
La laïcité, faut pas lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Je pense que ça, c'est tout le propos justement de l'intervention à Gonesse, c'est que on appelle laïcité ce qui n'est pas laïcité, ce qui est citoyenneté, le droit des femmes, etc., qui n'a rien à voir avec la laïcité, et qui se transforme justement en dogme,
oui.
en dogme religieux. Par rapport à ta question, moi j'envisage l'institution sous un angle anthropologique. C'est-à-dire, quelle que soit la société humaine, elle a des institutions. Elle a des institutions parce qu'un groupe humain a besoin de s'instituer, de se mettre debout. Donc, et c'est le mode de fonctionnement de l'institution qui est la remise en ordre du désordre individuel qui est posé. Le sorcier au fin fond du village qui envoie ses gris-gris, c'est une institution qui remet de l'ordre dans le désordre qui lui est confié. Voilà. Donc c'est, je ne parle pas de conseil constitutionnel ou autre.
Non, j'entends bien, mais quand même.
Mais moi, je me permets de distinguer, je distingue dans mes travaux entre ce qui est institué, donc organisé, et ce qui est institutionnalisé et qui relève de ce mystère propre à la société occidentale d'inventer un cadre cognitif, de l'abstraire, de lui accorder, de l'associer à un certain nombre de valeurs transcendantales, d'y introduire ensuite un vrai culte et de nous faire prendre tout cela comme étant un espèce de substrat non négociable qui s'impose à la volonté de l'ensemble des acteurs. Or, la notion d'État, jusqu'au XVIIe siècle, on n'en parle pas. On parle de royaume, de principauté, d'empire, de tout, on a tout un vocabulaire politique.
De féodalité aussi.
Comment ?
De féodalité. Moi, je suis
énormément.
De Gustave Massia, quand même, qu'on ne peut pas taxer d'extrême droite, t'ayant fait remarquer que l'État, c'était quand même aussi une protection contre les féodalités.
Ça me paraît tellement, tellement évident dans ma formation d'historien du droit.
Non, c'est bien de le dire.
Ça veut dire que face à la récurrence de certaines féodalités, l'État n'a pas rempli toutes ses tâches et que donc il faut continuer à réinventer quelque chose qui aille jusqu'au bout des types de problèmes que notre société rencontre. Il ne s'agit pas de se passer de l'État. Il s'agit d'aller plus loin d'ailleurs qu'une refondation. Il faut le revisiter dans ses bases les plus fondamentales, mais on a besoin d'une instance qui organise effectivement les cadres du jeu en société.
Oui. Alors moi je pense que ça se pose vraiment là. Pardon, quelqu'un
dit. Il y a Florence Wicky.
Non mais c'est un peu plus opérationnel. Donc ça se pose beaucoup là en ce moment, je trouve, cette histoire d'institution. On est vraiment dans un débat fort de cette histoire. Et je suis d'accord avec vous deux, d'ailleurs, quand vous dites que on n'est pas les dinosaures, on n'est pas les derniers des volcans, parce que les nouvelles générations, celles de mes filles, par exemple, pas celles qui ont 35, 40, 50 ans, celles qui ont entre 20 et 30 ans, sont ouvertes spontanément à l'interculturalité. C'est invraisemblable que toutes les questions qu'on pose là, ils ne se les posent absolument pas. Ils sont ouverts absolument à la rencontre avec des gens qui viennent d'univers, de régions, de vie familiale extrêmement différentes. C'est naturel, ça leur vient. Il n'y a pas du tout de question de différence de culture qui viendrait modifier leur rapport à l'autre dans ce que je vois. Évidemment, c'est des gamins qui sont étudiants, qui rencontrent les gens dans le cadre d'études, mais aussi des soirées, le fait d'avoir fait Erasmus, d'être allé à l'autre bout du monde pour faire tel stage, enfin. Et du coup, ils parlent tous plusieurs langues.